This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
We just have too much stuff that's being produced.
Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, le premier média francophone sur la mode responsable. Sur ce podcast, je reçois des femmes et des hommes porteurs de solutions pour accélérer la transition de la mode et du luxe. Outils tech, conseils de marque engagés ou en transformation, partage d'expertise, ce podcast est une bibliothèque de solutions concrètes, centralisées et immédiatement disponibles pour guider l'industrie vers un développement durable. Je vous donne rendez-vous tous les 10 jours sur la plateforme d'écoute de votre choix. Vous abonner à la chaîne présente le double avantage d'être notifié à la sortie d'un épisode et de nous soutenir en un seul clic. Nous avons également une newsletter business mensuelle à laquelle vous pouvez vous inscrire sur thegoodgoods.fr. Bonne écoute ! Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à écouter ce podcast depuis la reprise et je voulais commencer cet épisode par vous remercier sincèrement. Je suis à l'écoute de vos suggestions d'invités ou des problématiques que vous rencontreriez dans la transition de votre marque, de votre entreprise, auxquelles un ou une experte peut répondre à ce micro. Alors n'hésitez pas à m'en faire part en DM sur Instagram ou en commentaire sur l'application d'écoute de votre choix. Si vous appréciez ce podcast, si vous y apprenez des choses et que vous souhaitez nous soutenir, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un commentaire 5 étoiles sur iTunes. Ça n'a l'air de rien, ça prend quelques secondes, mais ça change littéralement tout pour le podcast car ça aide concrètement à le rendre visible. Ceci étant posé, aujourd'hui j'accueille Géraldine Valéjo dans le cadre du Conscious Festival organisé par Green is the New Black à la sortie d'une conférence à laquelle elle vient de participer. Géraldine est ingénieure de formation et directrice du programme Développement Durable au sein de Kering. Durant la demi-heure qui suit, on fait ensemble le point sur la définition de la responsabilité pour le groupe, la stratégie mise en place dans le cadre du Crafting Tomorrow's programme et les objectifs concrets à atteindre ainsi que les axes de la gouvernance au sein d'un groupe géant aux multiples marques. Bonne écoute ! Bonjour Géraldine.
Bonjour Victoire.
Merci de me rejoindre donc sur cet épisode dans le cadre du Conscious Festival. Tu sors tout juste d'une conférence et on a la chance de te recevoir pour parler un petit peu de Kering et des actions du groupe en faveur de la responsabilité sociale. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer s'il te plaît ?
Oui, donc je suis directrice des programmes développement durable chez Kering. Ça fait 8 ans que je suis dans le groupe où je suis rentrée directement en développement durable. Donc, je travaille avec l'ensemble des maisons du groupe pour les aider à atteindre les objectifs ambitieux qu'on a en termes de carbone, biodiversité, etc. Et j'encadre une équipe d'experts en approvisionnement responsable, innovation responsable et aussi en choses plus classiques telles que l'efficacité énergétique des magasins, la circularité, etc.
Très bien. Et avant ça, comment tu es venue à cette responsabilité ? Est-ce que c'est ton cursus scolaire puis professionnel ? Est-ce que c'est une transition toi-même ?
Alors, moi, je suis de formation ingénieure à l'origine et je voulais travailler, je suis ingénieure en environnement et génie civil parce que je voulais travailler sur des projets qui ont de l'impact sur la vie des gens. Et en fait, le monde construit... C'est la première impact sur les gens parce que c'est où est-ce que tu vis que vraiment détermine beaucoup de choses sur toi. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait ça. Mais à l'époque, il n'y avait pas du tout de formation en développement durable, alors que maintenant, c'est très courant. Mais déjà, à l'époque, j'ai retrouvé mes premières lettres de motivation pour travailler dans une entreprise. Et je disais, je voudrais travailler au développement durable chez vous. Et ils me répondaient, non, mais vous êtes ingénieur, vous allez sur les chantiers, etc. Donc, j'ai fait ça pendant 10 ans. J'ai travaillé... dans le groupe Vinci à l'international. Donc j'ai fait ça pendant quelques années, j'ai été sur des grands chantiers et puis ensuite dans le groupe où j'étais se développait la notion d'éco-conception et notamment une chaire avec Paris Tech pour intégrer ça. Et donc déjà il y avait ces deux sujets le développement durable et l'innovation qui étaient ensemble, et ça m'intéressait. Et c'est comme ça que je suis passée au développement durable. Et puis, j'ai été appelée par, à l'époque, PPR, qui se transformait en Kering. Et là, je me suis posé des questions. Mais quel est l'impact de la mode, en fait, sur les gens? Et c'est là que j'ai découvert tout un monde que je ne soupçonnais pas sur le fait, enfin, l'impact immense de cette industrie qui n'est pas devant nos yeux, parce que l'impact, il est très loin dans la supply chain, là où se fabrique, là où poussent les matières premières, là où se fabriquent les articles. Mais pourtant, il est énorme. Et on n'avait pas conscience, j'avais pas conscience de ça. Et je me suis dit, et quand j'ai vu aussi l'engagement de Kering et surtout de François-Henri Pinault sur ces sujets, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et voilà, j'ai bougé.
C'est un peu, j'ai la sensation que les vêtements sont une deuxième maison et que t'as pas vraiment changé de métier. Alors, est-ce que tu peux nous donner la définition de la responsabilité pour le groupe Kering, peut-être celle d'aujourd'hui, puisque tu as un recul certain, mais tu l'as vu évoluer?
Oui, alors c'est pas une question facile. Alors, en effet, en tant qu'entreprise de luxe, on a plusieurs responsabilités. Évidemment, celle de faire des produits de très grande qualité, la qualité incluant de ne pas polluer, de ne pas avoir des impacts négatifs sur les gens, les animaux, etc. Mais aussi une responsabilité de, en tant que prescripteur de tendance. Donc, ça, c'est une vision qui est très claire pour François-Henri Pinault, de quelle est l'empreinte que Kering va laisser dans l'histoire, et pas seulement en tant qu'entreprise de Kering, mais en tant qu'entreprise prescripteur dans un secteur qui est le luxe et la mode, et en tant qu'entreprise prescripteur de tendance en général.
Donc, est-ce que tu dirais en ça que la responsabilité du secteur du luxe, et donc a fortiori des groupes de luxe, est plus importante que celle des autres secteurs dans cette aptitude qu'ils ont à donner le ton? Tu parlais de tendance, j'imagine que c'est aussi bien des tendances, des trends au sens fashion, mais aussi justement le ton en termes de responsabilité des entreprises et de la mise en marche nécessaire. Est-ce que ces marques-là sont davantage regardées par les autres?
Oui, exactement, c'est exactement ça. C'est pas que des tendances de style, c'est aussi devancer un petit peu, je dirais, les tendances de société. Par exemple, hier, on a annoncé l'arrêt complet de la fourrure. C'est aussi par rapport à cette vision d'un luxe moderne qu'on a. C'est parce que le luxe d'aujourd'hui, c'est pas le luxe d'hier, c'est une notion qui évolue et donc qui doit coller à nos manières de vivre. Enfin, quand on y pense, quand Saint-Laurent a mis un smoking aux femmes, c'était très innovant, c'était très perturbant. Et puis maintenant, c'est plus du tout un problème. Donc, le luxe a aussi ce rôle de questionner et bouleverser les manières de vivre. Et les grands enjeux du 21e siècle, c'est bien le changement climatique, la perte en biodiversité. Donc, on a cette responsabilité d'aborder cela.
Est-ce que tu peux peut-être nous lister l'ensemble des piliers du développement durable, tel que le définit le groupe? Donc environnemental, social, tu as parlé d'innovation aussi. Je ne sais pas si c'est catégorisé d'une certaine façon.
Oui, alors nous, chez Kering, on a une stratégie qui s'appelle Crafting Tomorrow's Luxury, façonner le luxe demain, qui s'appuie sur trois piliers. Le pilier Care for the Planet. Donc, il y a tout un pilier environnement, où on a notamment l'objectif de réduire notre impact environnemental pour s'inscrire dans les limites planétaires, et je pourrais revenir là-dessus, mais c'est-à-dire, en fait, faire notre business en compatibilité avec ce que la planète peut nous offrir. Le collaborate with people, donc là, c'est plus le pilier social, et notamment, il y a un engagement très fort au niveau du groupe sur la diversité et l'inclusion, et sur le rôle des femmes. Et il y a un troisième pilier qui est Innovate, qui est sur l'innovation, parce que comme je le disais, ça va ensemble en fait, le développement durable et l'innovation, que ce soit au niveau des nouveaux matériaux, des nouveaux process, toujours avec ce filtre de créer un impact positif, et de développer des nouveaux produits et aussi des nouveaux services autour de ça.
Alors, je veux bien qu'on reprenne ces points donc, un petit peu en détail. Tu as commencé par le CARE sur l'aspect plus environnemental. Si je ne dis pas de bêtises, vous avez annoncé des objectifs assez concrets de réduction de 40% des impacts, de l'impact environnemental pour l'ensemble des marques du groupe et de moins 50% sur les émissions de gaz à effet de serre à 2025. Comment est-ce que s'organise particulièrement dans ton quotidien cette stratégie? Vous êtes accompagné par qui? Est-ce que ce sont des ressources que vous avez en interne, par exemple, tout simplement pour réaliser vos bilans carbone à un temps T plus 1? Et deuxième question, comment est-ce que toi tu fais pour donner le là au groupe, mais aussi à chacune des marques, parce que c'est une difficulté supplémentaire?
Alors déjà, sur les objectifs qu'on s'est fixés, ils ne viennent pas de nulle part. En fait, c'est une traduction pour le carbone des accords de Paris et de réduire à seulement 1,5 degré le climat. Donc là, déjà, c'est une première difficulté de dire comment est-ce que je traduis ça pour mon entreprise. Donc là, on travaille aussi avec beaucoup d'experts externes et des ONG, et notamment les Science Based Target Initiative, qui regroupe des ONG telles que le WWF, des experts du climat tels que Women Business, pour créer un cadre qui permette aux entreprises de faire les calculs pour savoir comment elles doivent s'inscrire dans ces 1,5 degrés. Et pour nous, la traduction, c'est moins 40% sur notre impact environnemental et moins 50% sur nos émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, ce 40%, moi j'avais fait le calcul que si on met en place tout ce qui existe déjà en termes de meilleures pratiques, si on fait 100% de coton bio, si on fait que de l'or éthique, etc., on est capable de réduire de 20% notre impact environnemental. Donc les 20% supplémentaires qui sont nécessaires pour s'inscrire dans les accords de Paris, en gros, eh bien, ça viendra de l'innovation, ça vient de mécanismes de rupture par rapport à des modèles qui existent aujourd'hui. Donc, c'est l'économie circulaire, c'est des matériaux nouveaux, etc., que je pourrais développer après. Donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir ces chiffres, et notamment en interne, pour calculer notre impact environnemental? On a développé depuis 2011, ça fait 10 ans voilà, maintenant, le compte de résultats environnemental, qui s'appelle en anglais Environmental Profit and Loss Account, qui est un outil qui a été un game changer en fait, pour nous. Parce que ce Environmental Profit and Loss Account, donc EPNL, à partir de maintenant je parle de l'EPNL, c'est l'idée d'inclure les externalités environnementales dans les comptes de l'entreprise. Et pourquoi on fait ça? C'est pour parler le langage du business. Parce qu'en fait, tant que la nature nous fournit plein de services de manière gratuite, d'avoir de l'eau propre, de l'air qu'on peut respirer, des superbes matières premières, tant que c'est infini, on n'a pas besoin de lui mettre une valeur. Mais là où on voit, maintenant qu'on voit la finitude de ça, puisque la planète est finie, puisqu'on voit la pollution, etc., eh bien on a besoin de lui mettre une valeur pour que le business le prenne en compte, comme il prend en compte d'autres aspects qui sont déjà transcrits. Donc, on a commencé en 2011 et on le fait chaque année, tous les ans. Pour ça, on est aidé par plein de boîtes, hein, mais des experts en analyse de cycle de vie, évidemment, des experts en économie de l'environnement pour traduire ces impacts environnementaux en valeur monétaire, différents consultants, dont notamment PricewaterhouseCoopers et à l'origine Trucost, qui savent, parce que c'est des nouvelles sciences en fait, que de traduire ces externalités environnementales. Et chaque maison fait ce bilan chaque année. Donc au niveau du groupe, on assure la méthodologie, développer l'outil commun pour qu'elles n'aient pas ce souci-là. Mon équipe tout particulièrement, on revoit la méthodologie pour que ça colle le plus au réel. Donc si par exemple on n'est pas capable de différencier un cuir provenant de France avec un élevage veau sous la mer d'un cuir venant d'Afrique du Sud avec un élevage complètement différent, ça ne sert à rien. Donc on regarde à ce qu'il y ait cette granulométrie pour pouvoir coller le plus au réel. Et ça permet, cette IPNL, d'identifier où sont les impacts matériels. Alors, qu'est-ce que c'est un impact matériel? C'est dire comment est-ce que je peux avoir provoqué du changement vraiment. Je peux travailler sur mon packaging, mais bon, c'est 0,1% de mon impact environnemental. Les gros sujets chez nous, c'est les matières premières qui sont dans nos produits. Ça, c'est 2/3 de l'impact. Donc vraiment, s'il y a une idée à garder, c'est que les choix qui sont faits au niveau des matières premières dans la création des produits, c'est le plus important. Un autre impact parmi ces matières premières, le cuir est évidemment, parce que beaucoup utilisé chez nous, la matière sur laquelle on travaille le plus. Et les matières naturelles aussi, d'une manière générale, coton, laine, cachemire. Il y a à peu près 1/4 qui est au niveau des processus de fabrication, tannage, teinture, etc. Et 10% au niveau de notre... là où on a un levier direct, qui sont la vente dans nos magasins et les transports. Donc évidemment, on les adresse tous. Et c'est plus facile de travailler sur ces magasins impropres parce que nos actions sont directes. Mais voilà, comme je disais, c'est surtout au niveau des matières premières qu'il faut faire le plus d'efforts.
Mais ça implique une traçabilité qui est exemplaire, puisque pour pouvoir calculer l'impact de chacun de ces produits, comme tu le disais, il faut connaître son origine géographique, l'origine des pots, etc. Ça, donc, c'est quelque chose que vous réalisez chez Kering. Est-ce que ce sont des résultats qui sont disponibles puisque l'outil IPNL est accessible ?
Oui, on a mis un point d'honneur à avoir de la transparence sur l'IPNL, tant sur la méthodologie qui est publiée que sur les résultats qu'on publie tous les ans. Et même de manière dynamique, on a un site internet où chacun peut aller voir par type de matière, par pays, etc. Et aussi, notre ambition, c'est que ce soit un outil qui soit largement utilisé dans la mode. Donc, on publie aussi les multipliers, qui sont des sortes de facteurs d'émission, mais avec plusieurs paramètres environnementaux, pour que les marques qui veulent faire la même chose puissent le faire. On est abordé souvent par d'autres marques qui commencent d'ailleurs, ou qui ont déjà commencé à faire leur IPNL. Parce que voilà, ça permet de parler à la direction financière, de parler à tout le monde dans l'entreprise pour faire prendre des actions rapidement, parce qu'on est capable de comparer en termes monétaires une action par rapport à une autre, termes monétaires sur combien ça va coûter, mais aussi combien ça va rapporter à l'environnement.
Et alors, au sujet de la traçabilité, est-ce que tu peux partager avec nous votre méthode, vos outils ?
Oui, alors, on a un engagement d'avoir 100% de nos matières traçables d'ici 2025. Parce que si on ne sait pas d'où ça vient, on ne peut pas savoir les impacts associés. Donc, c'est crucial. Et donc, pour cela, on a travaillé sur plusieurs aspects. Déjà, d'engager l'ensemble de notre chaîne d'approvisionnement là-dessus, et pas qu'au niveau des fournisseurs de rang 1, mais on va très loin dans les rangs de fournisseurs pour remonter jusque... alors, on voudrait à 2025 être jusqu'au champ de coton, est-ce que jusqu'à la ferme de veau, mais là, aujourd'hui, on est jusqu'au niveau d'une région agricole et au niveau d'un abattoir, pour 91% des matières premières chez Kering. Évidemment, c'est les 9% restants qui sont les plus compliqués. On développe aussi beaucoup de pilotes avec différentes technologies, que ce soit de la science forensique, de marqueurs ADN, de la blockchain. Mais ça prend en fait pas mal de temps. Et on a pour ça l'aide du Materials Innovation Lab à Milan.
Et alors, comment est-ce que tu fais ? Tu parlais du fait d'embarquer l'ensemble de vos parties prenantes et de remonter le plus loin possible dans les rangs. Comment ça se passe en fait concrètement pour les convaincre ? Est-ce que les coûts sont supportés par le groupe ou est-ce qu'ils sont partagés justement au sein des différents membres de la chaîne ?
Oui. Alors déjà, il faut un niveau de transparence et des définitions communes. Parce que si on ne sait pas de quoi on parle, ça ne va pas marcher, quoi. Donc depuis 2017... on publie ce qu'on appelle nos standards Kering pour les matières premières et les processus de fabrication, où il y a pour chaque matière première clé les exigences d'aujourd'hui, donc ce qu'on appelle minimum requirements, donc qui concerne un niveau de traçabilité, certaines certifications quand elles existent, etc. Et là où on veut aller à 2025, pour donner de la visibilité aussi à nos fournisseurs dans quel sens on veut aller, parce qu'eux, ils ne peuvent pas se retourner du jour au lendemain, mais ils peuvent avancer avec nous, c'est ça l'idée. Depuis plusieurs années, les Supplier Summit, donc les rassemblements de fournisseurs, se portent au moins chaque année sur le développement durable. C'était d'abord au niveau du groupe Kering, et puis chaque maison maintenant l'aborde dans un référentiel commun avec ces maisons. Parce que la difficulté aussi, c'est d'avoir plein de référentiels différents en développement durable. Voilà. Après, sur le coût, c'est vrai que toute transformation a un surcoût. Mais je dirais, si le luxe ne peut pas se permettre ce surcoût, qui le peut ? Donc là, on revient aussi à la question de responsabilité qu'on a à accepter ces coûts pour générer une transformation, en fait, dans le secteur.
Tu nous as parlé donc du CARE, sur le collaborate, tu as mentionné rapidement donc l'inclusivité, la diversité qui étaient des notions importantes, la place des femmes aussi dans l'entreprise. Est-ce que tu peux développer un petit peu ce volet plus social et gouvernance peut-être ?
Donc pour être honnête, je travaille moins là-dessus, donc je pourrais moins développer. Mais en gros, on a des objectifs quantifiés sur la part des femmes à tous les niveaux de management de Kering. On a aussi évidemment des audits sociaux de nos fournisseurs avant qu'ils puissent travailler avec les maisons. Mais ce qu'on veut, c'est aller au-delà pour inclure d'autres sujets tels que le living wage et aussi la diversité et l'inclusion. Parce que c'est bien beau de le faire au niveau de Kering, même si on a un message qui va au-delà du groupe. Pour nous, c'est très important aussi d'engager nos fournisseurs. Donc, petit exemple, même si je ne m'occupe pas des sujets sociaux chez Kering, mais plutôt environnementaux et innovation, je porte un projet avec plusieurs de nos marques en Italie pour former nos fournisseurs à ce qui est gender equality, parce qu'en fait, c'est aussi une question de performance. Les boîtes qui ont compris ces notions-là sont plus innovantes et plus résilientes, on l'a vu pendant le Covid.
Tu veux dire en termes de répartition des effectifs, enfin de parité vraiment dans le recrutement. Ça rend les boîtes plus résilientes et plus créatives.
D'accord. Oui, exactement. On a vu que les boîtes qui ont plus de femmes managers, plus de femmes dans les CODIR sont plus innovantes et ont été plus résilientes pendant la crise.
Très bien. Alors, on va diffuser ça à tout le monde. Merci pour cette bonne nouvelle. Et alors justement, un volet qui est un peu plus le tien, le dernier, donc c'est Create, tu as parlé de l'innovation et tu as mentionné les nouveaux matériaux. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui se trame, surtout depuis que vous avez annoncé abandonner la fourrure ?
Oui, alors il y a plusieurs choses dans le domaine de l'innovation, mais comme je disais, les matériaux, c'est un axe majeur pour nous. Sur les matériaux, on travaille sur deux axes, je dirais. Un qui s'appelle que je dirais rétro-innovation et l'autre que j'appellerais glitter-innovation. Rétro-innovation, c'est de se dire qu'on utilise déjà beaucoup de matières naturelles dans le luxe et on va continuer. Et pour nous, ce qui est important, c'est d'inclure dans ces chaînes d'approvisionnement des innovations en termes presque d'élevage, d'agriculture, pour mettre en place toute cette agriculture régénératrice dont on parle et qui permet de remettre le carbone dans les sols, multiplier la biodiversité sur le sol, mais aussi travailler avec la nature et que les éleveurs et les agriculteurs en vivent mieux. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je pourrais revenir, mais dans lequel on croit beaucoup. Et on travaille aussi sur les matériaux de demain. On travaille sur des scénarios où ce serait plus possible d'avoir du cuir, par exemple. Donc, qu'est-ce que ce serait que le cuir de demain ? C'est vrai qu'on regarde ce que les cuirs de mycélium, les cuirs biotech, les cuirs recyclés qui existent déjà. Mais pour l'instant, on n'a pas encore un niveau de qualité qui puisse satisfaire nos maisons. Mais je pense que ça va arriver bientôt. Donc, ça, c'est pour le cuir. Et puis, il y a aussi tous les matériaux presque futuristiques qui sont capables de capter le carbone de l'air pour refaire un plastique. Tout ça, évidemment, ça nous intéresse. Et en fait, on se met dans plusieurs écosystèmes de start-up, bien sûr pour les connaître, travailler avec elles, mais aussi pour faire évoluer l'écosystème pour qu'ils connaissent mieux la mode. Parce que souvent, les start-up, elles viennent de la biochimie, la mécanique, mais elles ne connaissent pas le secteur de la mode. Et donc, pour nous, c'est important que tout ça évolue. Donc, on fait partie, par exemple, on a été un des premiers partenaires de Fashion for Good à Amsterdam. On est aussi partenaire de Plug and Play à travers le monde et on a créé le Kering Regeneration, Award en Chine pour identifier les startups qui font la mode de demain en Chine, la mode durable de demain, et aussi pour faire parler de la mode circulaire, durable en Chine, et que ça devienne un sujet pour les consommateurs. C'est aussi notre rôle. Et on voit que ça commence à prendre.
Et donc, pour être un tout petit peu plus spécifique là-dessus, les entreprises qui sont, auxquelles vous donnez la parole, c'est plutôt des startups vraiment tech, ce sont des jeunes designers, c'est des maisons, tu parlais de créateurs de mode durable de demain, mais c'est quel maillon de la chaîne ?
C'est plutôt des startups tech. Donc, pour donner un exemple, les trois gagnants du Caring Generation Award qui a eu lieu en 2019 en Chine, la première, c'est un couple qui fait des teintures entièrement naturelles et circulaires. La deuxième, c'est une start-up qui fait du traitement de l'eau avec un modèle hyper simple qui peut être déplacé d'une usine à l'autre et qui peut être loué, mais pourtant qui est super efficace. Donc là, on voit, c'est à la fois sur le service et sur la technologie. Et le troisième, c'est une start-up qui fait de l'intelligence artificielle pour des productions de petits volumes et pour donc éviter les invendus.
En ce qui concerne les initiatives en faveur de la circularité dont on a parlé brièvement, est-ce que tu peux nous parler des directives données par le groupe aux maisons concernant par exemple les dead stock et la seconde main ?
Oui, donc déjà on n'a pas attendu la loi AGEC pour ne plus détruire des produits parce que ça c'est plus acceptable. Donc on a mis en place un monitoring de ça et chaque maison doit montrer comment... Les produits sont soit dans des ventes privées, soit upcyclés ou recyclés. On a aussi un engagement fort, en fait, sur le zéro plastique, parce qu'on n'y pense pas souvent, mais le plastique, ça ne va pas du tout avec économie circulaire. Donc, il y a un engagement du groupe à ne plus avoir de plastique envers les clients d'ici 2025, zéro, et plus du tout, y compris dans le transport, d'ici 2030, ce qui est un gros, gros enjeu. Il y a aussi, j'en parlais tout à l'heure, des standards sur les matières premières qui incluent des choses sur les matières recyclées. Donc on suit aussi, on encourage à avoir des matières recyclées et ça prend. J'étais étonnée parce que c'est vrai qu'au début, il y avait un peu cette antinomie entre matières de qualité et matières recyclées. Mais ça s'est beaucoup amélioré et ça prend bien dans les marques maintenant. Et sur la seconde main... On est persuadé chez Kering que ça va faire partie des services d'une marque de luxe que de proposer aussi bien de la première main que de la seconde main. Donc le groupe a investi dans Vestiaire Collective pour multiplier les pilotes et s'engager proactivement dans la seconde main.
Est-ce que vous avez identifié des solutions, dont celles que tu viens de mentionner, qui permettraient de générer de la valeur, au sens économique du terme, sans produire de façon infinie, sortir au moins en partie d'un modèle de production linéaire. On a mentionné un petit peu les services, mais est-ce qu'il y a des pistes que vous avez identifiées donc en dehors de la seconde main et de la gestion des dead stock ?
Alors déjà, sur la seconde main, il faut savoir que c'était quand même assez tabou pour le luxe jusque récemment. Et le fait que Kering investit dans Vestiaire Collective a fait beaucoup de bruit. Parce qu'il y a la question notamment de la cannibalisation entre la première main et la seconde main. Mais nous, ce qu'on voit, c'est que ça permet d'étendre la clientèle, et notamment des générations plus jeunes qui n'auraient pas les moyens d'acheter en première main. Ça leur permet de mettre un pied dans la marque. Donc ça, c'est intéressant. Après, en termes de valeur, il y a la valeur... en termes monétaires, et puis la valeur pour la planète. Tout ce qu'on fait sur l'agriculture régénératrice, pour nous, ça a une valeur qu'on a du mal à quantifier avec un retour sur investissement tout de suite, mais ça a une valeur pour la résilience de du business.
Vous avez initié le Fashion Pact. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est le rôle de Kering au sein de ce groupe et comment s'organise un peu la gouvernance, finalement ?
Oui, très bien. Donc, en fait, le Fashion Pact a été créé sur la demande du président Emmanuel Macron auprès de notre PDG François-Henri Pinault de rassembler le secteur de la mode sur trois piliers qui sont le climat, la biodiversité et les océans. Et en fait, la demande qui était très ambitieuse était d'atteindre au moins 30% du secteur de la mode pour avoir un effet transformatif. Et c'est ce que le Fashion Pact a réussi, puisque aujourd'hui, c'est plus de 250 marques, 71 groupes à travers le monde, qui représentent de mémoire 35% de l'industrie de la mode. Donc ça a été initié par Kering, mais maintenant, c'est pas Kering qui décide. La décision est collégiale.
Tu dirais que ce sont quoi les prochains grands challenges que le groupe va affronter ?
Alors, je pense qu'il y a un challenge sur la question de l'animal dans la mode. Bah là, on a annoncé récemment l'arrêt de la fourrure, qui va de pair avec notre vision moderne du luxe et cette idée que le luxe doit vivre avec son temps. Et que, donc avec ce message, on a aussi envie d'inspirer les autres. Mais je dirais, pour moi, c'est la partie émergée de l'iceberg. Et il y a un mouvement qui a transformé déjà l'agroalimentaire et qui va vers la mode. Donc nous, ça fait depuis longtemps qu'on travaille sur le sujet du bien-être animal. On a même publié des standards là-dessus pour avoir une définition, encore une fois, savoir de quoi on parle. On travaille à le mettre en place dans nos chaînes d'approvisionnement. Donc l'enjeu, ça va être à la fois de continuer à utiliser des matières premières naturelles et animales, mais dans les meilleures conditions, et s'assurer de ça. Parce que le tout plastique ou le tout plante, je pense que réduit l'offre pour les créatifs. Et ce qu'on veut, c'est vraiment les meilleurs standards. Et puis, il y a un enjeu vraiment d'aller vite, en fait. Parce que au Congrès international de la nature, ça a été dit par les experts, on est à un point de basculement. Si on ne fait rien, il ne nous reste que 60 récoltes et après, on aura complètement appauvri les sols. Donc, c'est aussi une question clé pour le business de la mode. Parce que si on n'est plus capable de faire pousser du coton, déjà, avoir de la soie de bonne qualité, c'est compliqué à cause de la pollution de l'air. Donc, il faut aller vite et donc avoir engager l'ensemble du secteur. C'est ce qu'on veut faire avec le Fashion Pact. C'est ce qu'on fait aussi avec C'est ce qu'on veut faire avec le Fashion Pact et c'est ce qu'on fait en étant dans beaucoup de coalitions et de groupes de travail avec nos pairs et avec l'ensemble du secteur.
Donc à ma question, est-ce un avantage ou un inconvénient d'être un groupe pour la RSE ? Tu réponds plutôt un avantage, j'imagine.
Oui, je dirais plutôt un avantage. Plutôt un avantage déjà parce que les maisons peuvent échanger ensemble sur certains sujets, qu'on a des équipes d'experts pour les aider aussi. Ça demande beaucoup d'expertises différentes en biodiversité, bien-être animal, recyclage. C'est pas possible d'avoir tout ça dans une seule maison.
Super. Et alors, dernière question. Selon toi, qui porte le changement au sein des grandes entreprises ?
Alors, selon moi, la détermination du PDG est clé. Parce que s'il y a besoin de le convaincre, ça va prendre trop de temps. Et on n'a pas le temps, on est dans l'urgence, comme on a dit. Donc, la conviction du PDG est clé. Et après, je dirais, les jeunes générations, elles sont embarquées. Il y a toute la question du middle management, qui est plus à travailler en profondeur, on va dire, au jour le jour. Donc ça, c'est notre boulot typiquement au corporate de Kering.
Merci beaucoup, Géraldine.
Merci.
Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous avez apprécié cet épisode. La meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email ou de bouche à oreille, de laisser sur iTunes un commentaire 5 étoiles et de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.